Vous écoutez, on lit pour vous.
Les grandes étapes d'un handicap, illustrées dans un vidéoclip. Un texte de Jenny Pelletier, paru le 5 septembre 2024 dans Le Quotidien. Il peut être difficile de comprendre les défis et les étapes traversées par les personnes en situation de handicap et leurs proches tout au long de leur vie. Cette réalité a été joliment illustré dans un vidéoclip tourné à Saguenay qui voyagera bientôt à l'international. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, ARLPH du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a tenu une activité bien spéciale et émouvante mercredi soir à la bibliothèque Hélène Penneau de Jonquière pour présenter le vidéoclip « Au cœur de mes réussites ». Une dizaine de personnes handicapées ont découvert avec enthousiasme le résultat du tournage auquel elles ont participé. « Il est vraiment beau, le vidéoclip », s'est exclamé Émile, l'un des acteurs. L'objectif était de démontrer leur évolution à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Que ce soit l'école primaire et secondaire, le travail, les loisirs ou la vie en appartement, ces étapes représentent des défis plus grands pour certains et plus subtils pour d'autres, explique la directrice de l'organisme, Manon Blackburn. L'une des séquences montre le jeune Maxime sur son lieu de travail chez le fabricant de vélos Cycle Da Vinci à Chicoutimi. Il rentre par la même porte que tous les autres employés. C'est toute une réussite pour lui, mentionne Manon Blackburn. Les acteurs en Belgique. Une délégation formée des acteurs et de 6 intervenantes communautaires s'envoleront vers la Belgique le 17 novembre pour participer à la 25e édition du Festival international Les Pommes d'Or. L'événement cinématographique met en vedette les personnes handicapées avec une remise de prix dans plusieurs catégories. Le vidéoclip « Au cœur de mes réussites » y sera présenté. Il faut dire que l'ARPLH du Saguenay-Lac-Saint-Jean entretient une histoire d'amour de longue date avec ce festival. On a participé à plusieurs reprises et on a déjà remporté 2 prix, dont un en 2019 pour la meilleure actrice. On a tissé des liens serrés avec l'organisation, indique la directrice de l'organisme, Manon Blackburn. Une expérience enrichissante pour les participants qui apporte aussi son lot de défis. Il faut passer les douanes. Certains n'ont jamais pris l'avion et n'ont jamais vécu de décalage horaire, souligne Madame Blackburn. Les enfants de Yannick Fournier en vedette. Tout au long du vidéoclip, on peut entendre la voix de la chanteuse saguenéenne Yannick Fournier, maman de 2 enfants atteints de trisomie 21. Sa chanson « Je les mène pour toi », écrite par Alex Gaudreau, a été choisie par l'organisme. Ça raconte ma vie avec mes enfants. La première fois que j'ai voulu la chanter en studio, j'ai plutôt pleuré, admet en riant la gagnante de Canada's Got Talent en 2022. Les 2 enfants de la chanteuse, Emma et Johan, ont participé au tournage. On peut apercevoir sa fille à l'école primaire et son fils Johan s'accomplir à la batterie. Il aime tellement ça, et il est bon. J'ai même commencé à l'intégrer dans mes spectacles, se réjouit Yannick Fournier. La chanteuse n'a pu retenir ses larmes après le visionnement du vidéoclip. C'était Les grandes étapes d'un handicap illustré dans un vidéoclip, un texte de Jenny Pelletier, paru le 5 septembre 2024 dans Le Quotidien.
Marc Gaulin partira à l'assaut du Sajama. Un texte de Serge Lamontagne, paru le 4 septembre 2024 dans Le Journal de Lévis. Résident de Lévis ayant également de solides assises dans Bellechasse, Marc Gaulin partira en expédition du côté de la Bolivie à l'automne prochain afin d'amasser des fonds pour l'organisme Albatros Lévis. Celui qui est à l'emploi des résidences adaptées de Bellechasse à Sainte-Claire est un adepte des défis sportifs et cherchait un moyen de venir en aide à l'Albatros, qui forme des accompagnants en soins palliatifs œuvrant dans le Grand Lévis, mais également dans les secteurs de Pintendre, Saint-Henri et Saint-Anselme, où plusieurs bénévoles sont aussi à l'œuvre. Lui-même a suivi la formation de 36 heures offerte aux bénévoles souhaitant accompagner des personnes en fin de vie ou atteintes de maladies dégénératives. Cette expédition, qui aura lieu au plus tard en octobre, n'est pas la première pour Marc Gaulin qui a, notamment, atteint le camp de base de l'Everest en 2003 en compagnie de personnes en fauteuil roulant avant de monter le Kilimandjaro en 2005. Il a aussi grimpé des volcans en Équateur pour le compte de l'ECAN, en plus de prendre part à des expéditions en Russie, au Maroc et en Inde, où il souhaitait franchir les caps des 6000 mètres d'altitude, ce qu'il n'a pas pu réaliser pour des raisons de santé à ce moment. Cela m'a toujours resté dans la tête. De franchir ce cap est symbolique pour moi. Le camp de base de l'Everest est à 5400 mètres d'altitude, et le plus près est le Kilimandjaro, avec ses 5985 mètres. Il n'y avait que la cordillère des Andes ou l'Himalaya pour me permettre d'atteindre cet objectif. La Bolivie était l'endroit tout désigné pour moi en raison de sa proximité, d'où l'idée de grimper le Sajama et ses 6542 mètres, indique M. Gaulin en précisant que le défi serait grand pour lui puisqu'il s'agira d'une randonnée en haute altitude et que la dernière section se fera de nuit sur une surface glaciaire, ce qui nécessitera bien sûr un habillement en conséquence, l'utilisation de crampons et une bonne gestion de ses énergies. Qu'est-ce qu'Albatros Lévis? Résidente de Saint-Anselme et présidente du conseil d'administration d'Albatros Lévis, Louise Lessard souligne que la formation offerte aux bénévoles de l'organisme est dispensée par le mouvement L'Albatros de Trois-Rivières, maison mère de la Fédération des Albatros, qui comprend 14 organismes en province, dont ceux de Québec, Lévis et Thetford Mines. L'organisme lévisien, qui fêtera ses 35 ans en 2025 et dont le siège social est situé à la résidence Cœur de Marie de Charny, a d'ailleurs offert cette formation aux bénévoles d'accueil Sérénité Bellechasse, à leur demande, au début du mois de mai. Les services que nous offrons le sont en fonction des demandes émanant des familles ayant un proche dans cette condition. Cela permet par le fait même d'offrir du répit pour la personne proche aidante. Nos bénévoles accompagnent la personne, peu importe son milieu de vie, que ce soit à son domicile, en RPA, en CHSLD, ou même à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, précise-t-elle. On ne charge jamais de frais pour nos services, mais on récolte des dons et récemment, on a reçu des sommes du Programme de soutien aux organismes communautaires et de la Fondation Saputo. On vient d'embaucher une directrice générale et une adjointe administrative qui sont en poste depuis l'automne dernier. Auparavant, les opérations étaient menées uniquement par des bénévoles, ajoute-t-elle. Marc Gaulin souligne qu'avant de suivre sa formation, il n'avait jamais entendu parler de l'organisme avant l'an dernier, où il voyait des chroniques dans le journal de Lévis. Personne ne veut entendre parler de la mort. Ce n'est pas un sujet qui est attirant. C'est en discutant avec l'ancienne présidente qui m'a dit que je pouvais suivre la formation si je le voulais et que ça ne m'engageait à rien par la suite, qu'il n'y avait aucune obligation. C'est une formation en développement personnel qui est enrichie, avec 12 modules, partage-t-il, en ajoutant que dans cette démarche, il faut être serein avec soi-même. Car si on est dans une période bouleversée de notre vie, ce n'est pas le bon temps pour suivre la formation. 1 $ du maître. En prévision de son départ pour la Bolivie, Marc Gaulin a lancé une campagne de financement au profit d'Albatros Lévis. Il souhaite amasser, à tout le moins, l'équivalent des 6542 mètres du Sajama, soit 6542 $. Si c'est plus, ce sera tant mieux, indiquait-il en mentionnant que tous les fonds amassés seront remis à l'Albatros et qu'il assumera personnellement l'ensemble des dépenses associées à son périple, y compris son billet d'avion et l'embauche du guide qui va l'accompagner sur place. Pour l'aider dans son objectif de 6 542 $, M. Gaulin vend des chandelles d'eau au coût de 20 $, et les gens peuvent faire un don se rendant sur la plateforme Zephy, que l'organisme utilise déjà pour recevoir des dons. Des reçus pour fin d'impôt seront offerts pour tous les dons supérieurs à 20 $. On peut y accéder via la page Facebook de l'organisme. C'était « Marc Gaulin partira à l'assaut du Sajama », un texte de Serge Lamontagne paru le 4 septembre 2024 dans le Journal de Lévis.
Des directeurs payés deux fois plus qu'au public. Un texte de Francis Vaille, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Saviez-vous que les écoles privées versent parfois 325 000 $ de rémunération à leurs directeurs, le double de ce qui est offert au public? Que certaines écoles ont d'importants frais d'administration et des profits appréciables? C'est ce que j'ai découvert en décortiquant les finances de 27 des 28 écoles privées qui comptent plus de 1 200 élèves au Québec. J'ai jugé pertinent de m'y intéresser, sachant que ces grandes écoles sont financées à moitié par des fonds publics pour un total de 660 millions par an et qu'elles font concurrence au public pour leurs élèves et leur personnel. Selon mon analyse, par exemple, les frais d'administration de certaines écoles privées, salaires des cadres inclus, peuvent atteindre 20 % de leurs dépenses et les profits 14 % de leurs revenus. La recherche ne fut pas simple. Les écoles privées ne rendent pas publics leurs états financiers, sauf de rares exceptions. Néanmoins, étant des organismes de bienfaisance, autorisés à donner des reçus de charité, elles doivent produire un formulaire financier que l'Agence du revenu du Canada rend public sur son site Internet. Voici donc les données et les nuances pour les comprendre, parfois importantes. Premier élément marquant, la rémunération du directeur ou de la directrice. En moyenne, ai-je pu calculer, les écoles analysées ont versé une rémunération de près de 200 000 $ à leur premier dirigeant au cours de l'année terminée le 30 juin 2023, plus récente disponible. Trois d'entre elles lui ont accordé entre 300 000 et 350 000 $ cette année-là, il y a 2 ans déjà, le Collège Sainte-Anne, Hugo Cavenaghi, Villa Maria, Anna Bakki, et le Collège Le Tendre, Yves Legault. Les deux premiers établissements sont situés à Montréal, le troisième à Laval. Le Collège Jean de Brébeuf arrive quatrième à environ 275 000 $. Luc Tifo. En comparaison, cette année-là, un directeur d'une très grande école publique, 2 400 élèves et plus, avait un salaire maximum de 142 000 $, auquel s'ajoutent les avantages sociaux. Environ 14 % du salaire. Certains directeurs, comme ceux de Sainte-Anne et de Brébeuf, doivent aussi gérer un niveau postsecondaire, cégep, précisons-le. Il reste que plusieurs reçoivent une rémunération au-dessus de 200 000 $ sans de telles responsabilités, bien au-delà du public. C'est le cas du Collège de Montréal et du Collège Saint-Sacrement, Terrebonne, par exemple. Autre comparaison, le ministre de l'Éducation empochait 178 000 $ au cours de la même année, redressé à 231 000 $ l'année suivante, et le premier ministre François Legault, 208 000 $, redressé à 270 000 $ l'année suivante. La question se pose, les directeurs du privé sont-ils trop payés? Ou peut-être est-ce plutôt les salaires des directeurs du public qui sont trop bas, ce qui explique les difficultés de recrutement? Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires du public, n'est pas surprise par ces chiffres. Citation : On a vu une migration, plusieurs départs de directeurs des écoles secondaires publiques vers le privé. On fait face à une concurrence impossible. La rémunération et les autres conditions jouent dans la tête des directions d'écoles publiques. Fin de citation, me dit Mme Legault. Plusieurs sont passés au privé ces dernières années. L'une d'elles est Caroline Claveau, devenue directrice du Collège Laval en 2021, un établissement privé. Madame Claveau était auparavant directrice de l'école Louis-Joseph Papineau, une école du public d'un secteur défavorisé de Montréal, arrondissement de Saint-Michel. Citation : Les écoles privées offrent des conditions pour les garder. Comme le fait une entreprise comme Bombardier pour ses cadres, j'imagine. Fin de citation, me dit Mme Legault, qui attend toujours que le gouvernement redresse les salaires de ses membres, non syndiqués, comme ceux des enseignants récemment. L'expert Michel Magnan de l'Université Concordia soutient que la rémunération au privé devient une question de gouvernance. Citation : Comment le conseil d'administration, CA, de l'école évalue-t-il cette rémunération? Les membres du CA sont-ils indépendants et en mesure d'évaluer la performance des équipes de direction? Fin de citation, me dit le professeur de comptabilité. À considérer, les directeurs du privé gèrent certains aspects que n'ont pas à gérer ceux du public, comme les finances et les ressources humaines, pris en charge par les centres de services scolaires. Vous écoutez « Des directeurs payés deux fois plus qu'au public », un texte de Francis Vaille paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. La rémunération n'est pas le seul élément qui frappe. Les quatre écoles aux plus fortes rémunérations, ai-je constaté, ont aussi des frais d'administration élevés en proportion de leurs dépenses totales, selon leur déclaration à Revenu Canada. Ces frais représentent même entre 15 et 25 % des dépenses, contre 12 % pour la moyenne des 23 autres écoles. En comparaison, dans les centres de services scolaires publics, CSS, ces frais sont en bas de 5 % des dépenses. Il n'est toutefois pas clair que ces frais dans les CSS englobent les mêmes éléments qu'au privé, par exemple certains frais administratifs propres aux écoles elles-mêmes. Joint par La Presse, les collèges Sainte-Anne et Le Tendre expliquent les fortes rémunérations, 325 000 $, par les responsabilités de la direction à l'égard de plusieurs écoles, essentiellement et non seulement de l'unité principale. Le collège Sainte-Anne regroupe 5 écoles de 3 niveaux, primaire, secondaire et collégiale, sur l'île de Montréal, dont l'une du primaire est entièrement privée. Elle compte ainsi 4 400 élèves, soit 1 600 de plus que celles qui suivent, soit le collège Charles Lemoine 2807 et Jean de Brébeuf 2800. Le Tendre. Pour sa part, le collège Le Tendre de Laval a accepté d'aider 3 écoles privées qui étaient en difficulté il y a quelques années, Citoyens, Laurentien et Boisbriand, en mutualisant les coûts de tous pour l'informatique et les ressources humaines, notamment. Même le service de la dette est géré par Le Tendre. Cette décision leur a évité la faillite de justesse, m'explique le directeur général Yves Legault. Ces frais regroupés sont portés aux états financiers de Le Tendre. Ils expliquent pourquoi, entre autres, les frais d'administration y représentent 25 % des dépenses. En contrepartie, le collège reçoit des revenus de ses 3 écoles pour ses services partagés. La rémunération d'Yves Legault a été bonifiée à environ 325 000 $ pour tenir compte de ses responsabilités plus grandes. Son mandat, citation, inclut la surveillance étroite des activités administratives de chacune des écoles, les effectifs de clientèle, la gestion financière et la dette, de même que l'accompagnement de chacun des conseils d'administration. Fin de citation, m'écrit-il. Tout de même, la question se pose. Ces services partagés, qui englobent quelque 4 200 élèves, justifient-ils que la rémunération du directeur de Le Tendre soit le double de celui d'une école publique de taille comparable aux 4 écoles réunies, soit environ 325 000 $ contre quelque 160 000 $, bénéfices marginaux inclus? Brébeuf. À Brébeuf, on justifie les forts frais d'administration, 19 % des dépenses ou 8,2 millions, par les 2 niveaux d'enseignement, secondaire et collégial, l'âge du bâtiment et l'ampleur du campus, aréna, salle de spectacle, résidence, etc. Dans un courriel, la direction m'écrit que la rémunération du directeur général, le TIFO, a été fixée par le conseil d'administration en la comparant avec les critères du gouvernement pour la haute direction des centres de services scolaires. Or, vérification faite, la rémunération de M. Tifo, qui oscillait entre 250 000 et 300 000 $ en 2022-2023, est plus élevé que le salaire offert à la directrice générale du plus important CSS au Québec pour la même année, 221 000 $. Ce CSS est le Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, que dirige Isabelle Gélina. M. Tifo a 2 800 élèves sous sa responsabilité et la DG du CSSDM, plus de 96 000. À Villa Maria, une lettre non signée du conseil d'administration que m'a transmise la directrice du marketing soutient simplement que la rémunération de la directrice, entre 300 000 et 350 000 $ en 2022-2023, citation, est comparable aux pratiques du secteur. Fin de citation. Quant aux frais d'administration élevés de Villa Maria, 23 % des dépenses, la lettre laisse comprendre que les services de l'école dans les deux langues et les investissements immobiliers sont parmi les responsables. C'était « Des directeurs payés deux fois plus qu'au public », un texte de Francis Vaille, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.
Dans la région de Vancouver, une grève paralyse le transport adapté Handy Dart. Un texte de La Presse canadienne, paru le 3 septembre 2024 dans Radio-Canada. Dans la région de Vancouver, environ 600 conducteurs et travailleurs d'Handy Dart sont en grève mardi, ce qui entraîne l'arrêt temporaire de la majorité des services de transport adapté. La section locale, 1724 du syndicat Amalgamated Transit Union, ATU, dont sont membres les employés d'Handy Dart, a annoncé qu'elle tiendra un rassemblement à Vancouver après la décision de ses membres de débrayer pour réclamer, entre autres, des salaires plus élevés. Mardi après-midi, le syndicat et l'employeur, Transdev Canada, ont accepté de se rencontrer avec l'aide d'un médiateur de la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique. La rencontre aura lieu le dimanche 8 septembre. Handy Dart offre un service d'autobus adapté pour les passagers à mobilité réduite qui ont besoin d'assistance. Selon TransLink, les trajets pour les rendez-vous liés au cancer, aux maladies rénales ou à la sclérose en plaques continueront à fonctionner, mais tous les autres trajets sont annulés. Transdev, mandaté par TransLink pour exploiter le service spécialisé de transport adapté, et le syndicat négocient depuis novembre dernier. Le syndicat a récemment rejeté l'offre de l'employeur. Les membres indiquent notamment qu'ils souhaitent des salaires égaux à ceux des chauffeurs de transport en commun de la vallée du Fraser. Nous avons du mal à comprendre pourquoi les chauffeurs qui s'occupent de personnes handicapées ou qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun sont traités différemment de ceux qui conduisent des personnes dans les transports en commun conventionnels. Une citation de Joe McCann, président de la section locale du syndicat ETU 1724. Notre priorité reste de parvenir à un contrat équitable qui concilie les besoins de nos employés, des clients de Handy Dart et des contribuables, a indiqué pour sa part Emily Watson, vice-présidente principale de Transdev pour l'Ouest du Canada. Dans la région de Vancouver, un peu plus de 30 000 usagers ont régulièrement recours au service Handy Dart. C'était dans la région de Vancouver, une grève paralyse le transport adapté Handy Dart, un texte de La Presse canadienne paru le 3 septembre 2024 dans Radio-Canada.
Nicolas Bennett offre la première médaille d'or au Canada en paranatation. Un texte de La Presse canadienne paru le 2 septembre 2024 dans La Presse. L'Eau Canada a été entendu pour la première fois aux Jeux paralympiques de Paris, lundi 2 septembre. Nicolas Bennett a décroché la première médaille d'or du Canada en remportant l'épreuve masculine du 100 mètres brasse. C'est sa deuxième breloque à Paris. C'est la joie d'être ici et de me battre contre les meilleurs athlètes au monde et d'être le meilleur d'entre eux. C'est aussi un soulagement d'enfin montrer au monde que je suis ici, que je suis l'un des meilleurs, a dit Bennett pour expliquer ses larmes pendant l'hymne national. L'athlète de Parksville, en Colombie-Britannique, a aussi gagné l'argent aux 200 mètres style libre, samedi 31 août. Bennett, qui a reçu un diagnostic d'autisme à 3 ans, participe aux épreuves de catégorie S14 pour les athlètes atteints de déficit intellectuel. Il a été le seul athlète à parcourir la distance sous le plateau d'une minute 4 secondes, arrêtant le chronomètre en 1:03:98. Le Canada a ajouté 2 autres médailles lundi 2 septembre, chaque fois en athlétisme. Leanne Taylor a décroché le bronze au paratriathlon en fauteuil roulant féminin et Austin Smink est monté sur la 3e marche du podium au 100 mètres masculin de la catégorie T34. L'atmosphère était électrique. Concourir devant une foule est toujours amusant, a dit Smink. Tout le monde du Canada est ici avec moi, dans mon cœur, et encore plus ceux qui sont ici, en personne, qui ont tant contribué. À sa première présence aux Jeux paralympiques, Smink a eu besoin de 15 secondes 19 centièmes pour franchir le fil d'arrivée. Au 2 septembre, le total du Canada était de 11 médailles, 1 d'or, 4 d'argent et 6 de bronze. Par ailleurs, Patrick Anderson a marqué 17 points. Colin Higgins et Reed D'Eighth en ont ajouté 14 chacun. Et le Canada a terminé la ronde préliminaire du tournoi de basketball en fauteuil roulant avec une convaincante victoire de 68-52 contre l'Allemagne. L'unifolier a maintenant rendez-vous avec les Pays-Bas en quart de finale. On n'aurait pas pu faire mieux en obtenant des contributions de tous, avec un gros match de Reed, a dit Anderson, qui a ajouté 7 rebonds et 2 passes décisives. Ça a permis à certains de nos gars plus âgés de se reposer un peu, mais de jouer des minutes significatives pour rester alerte pour la suite. Aussi, en volleyball à 6 féminin, le Canada a gagné son match de la ronde préliminaire 25-14, 25-17 et 25-13 contre le Rwanda pour mériter une place dans le carré d'as. La capitaine Danielle Ellis a connu une sortie dominante, menant l'équipe avec 21 points. Julie Cousin en a marqué 12, puis Jennifer Oakes et Sarah Melenka en ont ajouté 10. C'était Nicolas Bennett offre la première médaille d'or au Canada en paranatation. Un texte de la presse canadienne paru le 2 septembre 2024 dans La Presse.